Claire Montangéro, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez avec deux co-auteurs un livre sur le peintre du Chablais, un des peintres du Chablais, mais peut-être celui qui est le plus symbolique, Frédéric Rouge. D'où vient l'idée de ce livre ?
C'est un vieux projet pour moi. Je trouvais sympathique l'idée de ressortir un livre 40 ans après le dernier sur ce peintre qui est très emblématique et très cher au cœur des Chablaisiens.
Mmh. Alors, parlez-nous un petit peu de Frédéric Rouge. C'est vrai, vous l'avez dit, il est cher au cœur des Chablaisiens. Il y a eu une expo à Aigle permanente. Maintenant, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais qui est-il ? Quand a-t-il peint ?
Eh bien, c'est un homme qui est né à la fin du 19e siècle, en 1867, et qui a peint finalement comme ses ancêtres. Une peinture classique, un œil traditionnel, puisque contrairement à ses contemporains Picasso, Kandinsky et les autres modernes, lui, il est resté très fidèle à une vision ancestrale du monde et de sa terre.
Il a une grande longévité, hein. Il a vécu assez vieux, il est mort en 1950, si oui. J'ai bien vu. Ça veut dire que c'est presque un siècle de peinture et qui reste en fait d'un classicisme absolu, il n'a pas évolué.
Voilà, une grande fidélité à son regard, à son pinceau, et puis en revanche des œuvres emblématiques qui datent du tout début de sa carrière. Le retour du bûcheron, le chasseur, le braconnier, les pêcheurs, des choses comme ça que tout le monde a dans l'œil dans la région. Eh bien, date vraiment assez de ses débuts.
Vous avez évoqué Picasso, Kandinsky. C'est clair, il y a cet éclatement du début du XXe siècle qu'on explique par des raisons historiques. Toute l'histoire de l'art est faite pour ça. Le cubisme qui va déboucher sur l'art contemporain actuel. Lui, qu'est-ce qu'il y a ? C'était une résistance active. Il a écrit là-dessus. Il a dit pourquoi ou c'était simplement que c'était pas sa voie ?
Il a très peu écrit, il s'est très peu exprimé sur le pourquoi du comment de sa démarche. En revanche, c'était un terrien, c'était quelqu'un très attaché à ses racines, qui se considérait pour un tiers peintre, bien sûr, mais pour un tiers également pêcheur et un autre tiers chasseur. Il disait que son année était divisée en trois. Donc c'était vraiment quelqu'un qui faisait de la peinture comme il faisait de la pêche ou de la chasse. Et je crois qu'il avait vraiment les sabots ancrés dans son coin de terre et qu'il n'y avait aucune intellectualisation et aucune autre volonté que d'être un fidèle traducteur de la réalité qu'il avait sous les yeux.
Vous nous dépeignez presque un peintre du dimanche, c'est pas le cas là. C'est quelqu'un qui a fait ses académies, hein, qui
Absolument.
Est parti à Paris apprendre son métier.
Absolument, il l'a fait pendant une année à l'Académie Julian, comme les impressionnistes. Et il en est revenu assez rapidement avec une médaille d'ailleurs, médaille d'or obtenue à Bâle et à Paris, exposition au Salon. Et ensuite il est devenu peintre professionnel, il a fait beaucoup de portraits, beaucoup de peintures de commande, des affiches, des diplômes, des certificats, peinture militaire, patriotique. Il a vécu de son art et il a surtout été le peintre emblématique du Bitter des Diablerets, cette boisson alcoolisée fameuse dans laquelle il s'est permis d'introduire l'image du diable pour vendre cette boisson des Alpes.
Le diable des Ormonds. J'aimerais revenir à cette période parisienne. Il est avec les impressionnistes et il refuse d'entrer dans cette modernité-là, hein, la fin du 19e siècle. On a parlé du cubisme avant qui arrive un peu plus tard. Et pour ça, il a eu une médaille, alors que les impressionnistes étaient des refusés. Hein, il y a le fameux salon des refusés à Paris. C'était un collabo, en somme. Il était dans l'art officiel.
On peut le dire, bien sûr. Et je crois qu'il n'en éprouvait aucune honte, aucune gêne. Je crois qu'il voulait être un bon artisan. Quelqu'un qui utilise des outils ancestraux qu'on lui a transmis, comme on peut en voir au Louvre et ailleurs, et qui décide d'être sur ce chemin-là. Quelqu'un pour qui la modernité, le vent nouveau qui souffle en ce tournant du siècle n'affecte pas les poils de son pinceau.
Et finalement, que je dis, c'est un collabo, évidemment, c'est pas très sympa, mais a posteriori, maintenant, un siècle plus tard, on peut se dire peut-être qu'il a été un résistant, au contraire, à la mode et aux tendances du moment.
En effet, moi je trouve que c'est l'intérêt aujourd'hui de ce peintre. Quand on le regarde à nouveau, on se dit, quel courage! Parce que face à Picasso et à ces tornades que ses contemporains ont fait souffler sur l'art, il fallait un sacré courage pour oser rester fidèle à des idées telles que les siennes.
Il a bien vécu de son art ?
Je crois, oui.
C'est plus facile d'acheter un rouge qu'un Picasso ?
Je ne sais pas si c'était la même clientèle. Je crois que c'était des gens qui aimaient se faire portraitiser encore, des bourgeois, des gens riches qui avaient envie de représenter leurs enfants, leurs personnes à travers une vision.
Alors quand on feuillette le livre, il y a ces tableaux de commande, évidemment, vous venez de les évoquer, mais il y a aussi une espèce de force documentaire alors sur le monde, notre région, le Chablais tel qu'il était avant que le temps s'accélère, avant le XXe siècle. On a une photographie finalement du Chablais avec des costumes, avec des paysages.
Et c'est ça qui est très fort, je crois que c'est ça qui touche les Chablaisiens, c'est de trouver ce Chablais de toujours, en tout cas d'avant la folie frénétique qui s'est emparée de nous, et c'est une espèce de d'humus dans lequel on se retrouve, on peut imaginer nos arrière-grands-parents, nos ancêtres qui ont vécu de cette même façon, en accord avec les saisons, en accord avec une terre, et je crois que c'est ça qui nous fait du bien quand on contemple cette œuvre.
Tout au début de cet entretien, je disais qu'il y avait une exposition maintenant à Aigle, à la maison de la Dîme, hein, sur Frédéric Roux. C'est une exposition qui a beaucoup de succès. Le livre vient un peu de là ?
Non, il date d'avant. En fait, l'idée date d'avant. L'idée était de remettre aujourd'hui un nouveau regard sur Frédéric Roux à disposition des gens. Car la dernière monographie qui lui a été consacrée date d'il y a 40 ans. Elle ne se trouve plus que chez les bouquinistes. Et elle est d'ailleurs l'œuvre de Marcel Jordan, et avec qui aujourd'hui nous refaisons ce livre. Marcel Jordan, qui est un fidèle admirateur de Rouge, et qui a beaucoup participé d'ailleurs au maintien de la vivacité de l'œuvre de Rouge dans la région, puisqu'il a fait des reproductions qui se sont vendues et sont disponibles ont été disponibles pendant toutes ces années.
Mmh. La façon dont Rouge voyait sa région, son Chablais, comment est-elle ? C'est un Chablais ouvert sur le monde ou c'est un Chablais plutôt à l'ombre de ces montagnes ?
Un Chablais plutôt bouché, puisque la plupart de ces paysages sont obstrués. Ils ont un horizon manifestement fermé par les montagnes environnantes. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment pris d'altitude pour essayer de raser les Alpes qu'on voit la mer. Mmh. Et je crois qu'il se contentait, il était tout à fait en osmose avec son coin de pays. Même du côté du lac Léman, il a cette espèce de conditionnement du regard qui veut qu'on le bouche, on met des sommets, on met des murs et des remparts pour le rendre peut-être plus convivial ou plus accueillant ou plus conforme à une idée qu'on s'en fait, un peu fermée sur elle-même.
Vous arrivez à point avec ce livre, c'est le temps de Noël évidemment, des beaux cadeaux, c'est un bel ouvrage avec une richesse de iconographique, c'est comme ça qu'on dit, avec beaucoup donc de reproductions des œuvres de Frédéric Rouge. On le trouve déjà
dans le commerce, tout à fait, ou sur le site www.publi-libris.com au prix de 75 francs.
Grégoire Montangero, merci.